Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui vous propose une semaine consacrée à l'après 89 intitulée « Une victoire à la Pyrrhus du droit ». La chute du mur a consacré la victoire de la démocratie et donc du droit. Mais cette victoire pourrait bien être une victoire à la Pyrrhus tant elle semble s'être retournée. En son contraire, les droits de l'homme, rebaptisés droits humains, se sont fait les compagnons de route du néolibéralisme et ont cautionné l'accroissement des inégalités. Les frontières disparaissent, mais l'on a reconstruit des murs. La règle de droit exprimant une volonté politique est insidieusement remplacée par des normes techniques, voire biométriques, édictées par on ne sait qui. L'activisme des petits juges luttant contre la corruption a fini par faire le lit du populisme, comme le montre l'exemple italien. Enfin, le libéralisme imposé aux pays de l'Est a engendré un illibéralisme qui déteint à l'Ouest. Alors je vous propose de commencer cette semaine par un témoin privilégié de cette période, pas seulement un témoin d'ailleurs, mais aussi un acteur. Je veux parler de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner est d'abord un médecin engagé et engagé dans ce qu'on pourrait appeler une idéaction humanitaire et qui se distingue en cela d'ailleurs des idéologies. Il fut aussi ministre de François Mitterrand en 1989, et donc pendant la crise des Balkans, à la chute du mur. Mais il fut également haut représentant du secrétariat général des Nations Unies au Kosovo. Donc, professionnel engagé, militant, homme politique, fondateur d'une ONG et pas n'importe laquelle, chef d'un exécutif de crise au Kosovo, il a été en quelque sorte des deux côtés de la barrière. C'est dire si son témoignage nous sera précieux. Bernard Kouchner, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, 89, pour vous, c'est une date à laquelle vous étiez au gouvernement. Vous y étiez déjà depuis un an, vous étiez ministre de François Mitterrand. Donc, vous l'avez vécu, cette crise, vous avez vécu la chute du mur. Vous avez vécu la surprise de ce qu'on n'attendait pas aussi vite.
De ce qu'on n'attendait pas.
Du tout.
On pouvait supputer qu'un jour... toute cette construction rigide et oppressive s'écoulerait. Mais personne n'y pensait, en réalité, personne. Antoine Garapon, j'étais le ministre aussi de Michel Rocard, je vous signale.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
N'oublions pas Michel
mais dans
Rocard.
Bien sûr.
Non, bien sûr. Donc, François Mitterrand. François Mitterrand qui, je vous rappelle, avait visité l'Allemagne de l'Est juste avant la chute du mur.
Incroyable.
C'est-à-dire que non seulement on ne s'attendait pas à cette écroulade, à cette espèce d'anéantissement, ce qui avait été quand même une idéologie très forte, à laquelle beaucoup ont cru, même si elle se fendillait, même si elle devenait terriblement dictatoriale, etc. François Mitterrand avait visité l'Allemagne de l'Est, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi, et un certain nombre de gens, pas forcément François Mitterrand, le président de la République, mais disait « Nous aimons tant l'Allemagne qu'il vaut mieux en avoir deux ».
Ça, c'est une
personne
pensée.
Personne ne pensait, ce qui pourtant en Allemagne était présent dans le débat politique, la réunification. Personne n'y pensait.
Alors pourtant, le président Mitterrand était proche de l'Allemagne de l'Ouest. Il avait une bonne relation qui a été fondamentale pour la construction européenne d'ailleurs, avec Helmut Kohl.
Écoutez, oui, on en reparlera au moment des Balkans. François Mitterrand était aussi méfiant par rapport à l'Allemagne et à son rôle en Europe. Mais, enfin, nous ne savions rien. Qui parlait de la chute du mur?
Mais
la chute du mur, c'était la fin du communisme.
C'est ça. Et on
89, c'était la fin du communisme.
Et nous pensions que le communisme et l'Union soviétique étaient pas éternels, mais étaient là pour très longtemps.
Oui.
Et comment vous expliquez?
Et puis on disait qu'il y avait des succès formidables. N'oubliez pas, Gagarine avait été le premier à sortir de l'atmosphère, etc. Et puis il y avait des succès formidables. Ça n'était pas vrai. C'était comme dans les albums de Tintin, il y avait du carton-pâte de chaque côté des rues. Après, il n'y avait rien, c'était le désert.
Alors,
ils étaient malheureux et ça n'impressionnait pas. Les progressistes, dont j'étais, dont je suis quand même... ne pensait pas à la tristesse, aux conditions de souffrance de tous ces millions de personnes qui habitaient derrière le rideau de fer. Même l'expression « rideau de fer » était violente. Ça nous semblait normal.
Alors, à 30 ans de distance, comment vous expliquez ce qu'on peut appeler un aveuglement, Bernard Kouchner, de la part des progressistes? Je ne m'exclus pas d'ailleurs du tout du lot, mais
non.
L'histoire
vous guette.
Voilà. Mais alors, on va en reparler de l'histoire, mais comment vous expliquez aujourd'hui, parce que comment vous expliquez cet aveuglement, notamment de la gauche, parce que la droite était beaucoup plus au clair avec cela.
C'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de bribes d'explications. Moi, j'en ai une qui m'est apparue d'ailleurs très longtemps après, à ces moments-là, à la fin des années 80. Je crois que notre grosse erreur, la grosse erreur de la gauche, ou des progressistes, comme on disait, c'était d'avoir, ça aussi François Mitterrand y avait contribué, amalgamé le communisme et le socialisme. Il y a une différence fondamentale. On n'a pas accusé le socialisme jamais d'être assassin. Les camps n'ont pas été faits par les socialistes, etc. Et on disait les socialo-communistes. Et la gauche était possible, envisageable, parce qu'il y avait cette première alliance, mésalliance totale à mes yeux, mais politiquement absolument indispensable si on voulait prendre le pouvoir en France. N'oubliez pas qu'à un moment donné, le Parti communiste français était à 25% des voix, plus. Oui.
Ce qui est incroyable. Et d'ailleurs, Mitterrand a eu le génie d'absorber et finalement de maîtriser, voire de faire disparaître le Parti communiste français.
Oui, de maîtriser, j'aurais dit. Oui, de tromper même.
Oui, oui.
Dès qu'il a pu se débarrasser des ministres communistes, il l'a fait. Je ne dis pas d'ailleurs que les ministres communistes étaient tous mauvais, pas du tout. Les ministres communistes à l'intérieur du gouvernement ont fait leur travail. Hein.
Est-ce que François Mitterrand n'était pas un homme du XXe siècle, de la première partie du XXe siècle? Si on date la fin du XXe siècle à l'année 1989, il continuait d'avoir, et on va le voir dans un instant pour les Balkans, il continuait d'avoir une vision de l'Europe, une vision des peuples et des dynamiques européennes qui n'était plus celle qui était en train de s'effondrer et de renaître.
Oui, mais dont on constate le retour maintenant.
Oui,
on y viendra.
Tout à fait,
oui,
on y reviendra.
Oui, c'était un homme qui était né, qui avait été non seulement éduqué, mais avait vécu dans une famille très conservatrice, et il conservait de cette famille une silhouette intellectuelle qui est celle que vous décrivez. Oui, il a compris, pour prendre le pouvoir, il faut que la gauche soit unie. Pour que la gauche soit unie, il faut travailler avec le Parti communiste. Et pourtant, ça n'était pas sa tasse de thé. Mais il l'a fait avec un brio exceptionnel. Enfin, c'était quand même un génie politique. Et il a le programme commun. Est-ce qu'on peut penser au programme commun maintenant?
Tout à fait. Alors, survient très tôt, après 89, la crise des Balkans.
Oui.
Et vous faites notamment, Bernard Kouchner, avec lui, le fameux voyage de Sarajevo, qui est resté dans les esprits. Est-ce que vous pourriez nous raconter le contexte de ce voyage, qui a été quand même un événement...
Garapon, n'allons pas trop vite, si vous permettez. C'est vous qui dirigez l'émission, heureusement. Hein, mais je vous rappelle, puisque nous avons parlé de 89... 1989. En 89, il y a eu un grand discours énorme avec des centaines de milliers de gens, peut-être des millions, à Obilić, c'est-à-dire le champ des Merles, là où la fameuse bataille entre les Serbes et les musulmans, enfin entre les Turcs en réalité, avait été délivrée. Et là, Milošević, nouveau président de la Fédération Yougoslave, a dit « Nous ne bougerons jamais ». En fait, il annonçait la guerre. Enfin, la guerre s'en est suivie.
C'est ça.
En 89 déjà, pendant que le communisme s'écroulait, lui, qui faisait partie du monde communiste, Milošević, n'est-ce pas? Même si on disait que c'était l'endroit le plus ouvert, il faisait partie de ce monde. il annonçait qu'il y aurait une guerre nationale. D'un côté, le communisme s'effondre, de l'autre, le nationalisme renaît.
C'est en cela qu'il est très intéressant, que le personnage de Milosevic est intéressant, parce qu'il montre tout de suite, dès 89, dès ce fameux discours de Milic, il montre la conversion, assez rapide d'ailleurs, du communisme en nationalisme, et en un nationalisme brutal.
Oui.
Et d'ailleurs,
nationalisme
armé, bien sûr. Et il dit d'ailleurs en même temps dans ce discours, c'est ici, dans le champ des Merles, au Kosovo, que commence la guerre d'ex-Yougoslavie, et c'est ici qu'elle se terminera. Ça, on l'a compris plus tard.
Et disons un truc aussi, là. Dans l'esprit des Serbes, que par ailleurs, je trouve des gens fort intéressants, j'ai beaucoup vécu avec eux, la bataille de Bilic, la bataille du champ des Merles, c'est pas une victoire, c'est la défaite des Serbes. Mais on dit jamais ça. On revient sur cet endroit qui a marqué l'histoire de la Serbie, mais c'est une défaite. C'est-à-dire que le prince Lazare a été tué, etc., etc. Donc, de cette défaite va rejaillir non seulement un élan nationaliste, mais on va tenter de chasser les autres.
Et Bernard Kouchner, finalement, l'ancien clivage entre socialisme et capitalisme, entre l'Est et l'Ouest, se recompose immédiatement, et c'est le génie de Milosevic de l'avoir compris d'ailleurs, en un clivage, les pays chrétiens assaillis par les musulmans, qui en l'occurrence seront les Bosniens et les Kosovars. C'est-à-dire que immédiatement, il y a une recomposition de front que l'on ne comprend pas à l'Ouest, que l'on ne comprend pas. Je parle sous votre contrôle.
Non, vous êtes gentil de parler sous mon contrôle, mais mon contrôle ne vaut rien dans cette affaire. Parce que même moi, je voyais que cette opposition naissait, mais d'abord au Kosovo, puisque vous en avez parlé, l'idéologie, si je peux dire, mais même la religion musulmane n'existait pas, il n'y en avait pas. C'était des gens qui étaient habitués, étaient beaucoup plus modernes que leurs voisins albanais, qui pourtant, même origine, même langue, etc., parce qu'ils étaient dans un socialisme qui était beaucoup plus ouvert, et finalement, dont les résultats industrieux et industriels, et également la vie quotidienne, étaient quand même plus faciles que dans l'URSS. Ça ne se sentait pas, les religions ne se sentaient pas. Et puis, si elles se sentaient, il aurait fallu au contraire la religion chrétienne orthodoxe et Rome. Ça, c'était une opposition. Mais ça n'a jamais compté. Pas beaucoup non plus politiquement. Les séparations étaient nationalistes. Et nationalistes, comme vous avez dit, armées, juste. C'est très juste. C'était la violence qui commençait. Il y avait des milices qui assassinaient. À tour de bras, si j'ose dire.
Bien sûr. Alors, c'est commence l'épuration ethnique. Et puis, commence cette guerre fratricide, tout d'abord, entre les Serbes et les Croates, où on assiste à une division violente de ces peuples qui étaient beaucoup moins divisés qu'on ne pensait.
Oui, mais n'oubliez pas, Serbes, orthodoxe, croate, chrétien.
Bien sûr, oui.
Ça aussi comptait.
Et puis c'est la division de l'Empire
chrétien,
romain d'Orient.
Bien sûr.
Bien sûr. Mais et nous, qu'est-ce qu'on, comment on répond, Bernard Kouchner, on répond en faisant de l'humanitaire, du judiciaire. On va créer le TPY. On fait de l'humanitaire. On y reviendra dans un instant. On ne comprend pas, on donne l'impression de ne pas comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinairement important sur lequel il faut intervenir tout de suite militairement, montrer notre détermination à ne pas déstabiliser les Balkans occidentaux.
Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre ça. D'abord, c'est jamais très très sympathique, et on n'aime pas du tout évoquer immédiatement la guerre. Il y a toujours des conditions avant, des sanctions économiques, des pressions diplomatiques, etc. Le mur de Berlin, au début, n'était pas encore tombé. Donc, le communisme était présent et pesant. C'était la grande force, après les États-Unis, après le monde,
libre.
Oui, le monde libre. Oui, c'est l'expression qu'on n'emploie plus, mais c'est vrai, le monde
libre.
C'est
comme ça qu'on disait à l'époque.
Oui, c'est ce qu'on disait. Et puis le bloc socialiste. Encore une fois, on disait socialiste, en fait, il fallait dire le bloc communiste. Et puis, il y avait cette différence que le président de la République française, François Mitterrand, ressentait fortement l'attitude des Allemands vis-à-vis de l'Europe de l'Est, vis-à-vis de l'Europe du Centre, et l'attitude des Français. Nous étions, les Français, les alliés des Serbes. Et historiquement, depuis un siècle et plus encore, nous étions formés presque de la même façon, ce qui concernait les armées, et puis nous avions des rapports étroitement proches.
Avec historique et qui rappelait la guerre 14, que l'on voit toujours d'ailleurs aux Invalides aujourd'hui. Voilà l'importance de cette amitié franco-serbe. Mais est-ce que ça n'oblige pas le président Mitterrand à tenir des positions qui étaient contraires, alors non seulement aux valeurs fondamentales de notre République, aux droits de l'homme, parce que l'épuration ethnique commence, cette guerre épouvantable se déroule en Bosnie et il va faire ce voyage à Sarajevo avec vous.
Pas au même moment. Oui, d'abord, il n'était pas partisan de la violation des droits de l'homme, François Mitterrand. Mais il ne pouvait s'empêcher de se souvenir, ce qu'il m'a dit très, très clairement, lorsque nous étions dans les camps allemands, où François Mitterrand était dans trois camps allemands, il s'est évadé des trois camps, et la dernière évasion a réussi. Il disait, parmi les malheureux, les Serbes étaient les malheureux des malheureux. C'étaient les plus pauvres et ceux qu'on n'aidait jamais. Et ça, il s'en souvient très bien. Et il avait même dit, sauf indication internationale, ça voulait dire ONU, la France ne fera jamais la guerre à la Serbie. C'est ce qu'il pensait. Et quand je suis allé avec lui à Sarajevo, il s'est rendu compte que c'était évidemment nos amis qui étaient les plus oppresseurs et que nos amis, les Serbes donc, qui opprimaient ceux qui n'étaient pas musulmans, parce que là non plus, en Bosnie, ça comptait pas, ou presque pas. Mais enfin, c'est eux qui bombardaient, c'est eux qui étaient les oppresseurs. Ça a été difficile, discutant avec, après le voyage à Sarajevo, de constater qu'il changeait doucement. Il était réticent, mais il changeait.
Il était capable d'écouter, notamment, il y a cette fameuse rencontre.
Il était capable de comprendre, surtout écouter, c'est facile.
Comprendre. Mais est-ce qu'il comprend, notamment à cette rencontre de Sarajevo, est-ce qu'il comprend que les Serbes sont en train de faire depuis Palais, parce qu'il n'était pas à Sarajevo depuis Palais.
Écoutez, je ne peux pas tout vous raconter, il faut que vous me réinvitiez, mon cher Antoine. Bon. François Mitterrand avait décidé, vous savez, personne nous attendait, ça avait été ce voyage violent, enfin difficile et dangereux à Sarajevo, avait été décidé sous l'influence d'un certain nombre de gens, dont Bernard-Henri Lévy, avait été décidé pendant la réunion européenne, le sommet européen au Portugal. Et personne ne le savait et j'étais celui qui avait été choisi, moi j'y allais tout le temps, il faut dire. À Sarajevo en particulier. Et donc nous avions décidé, c'est le président qui l'avait décidé, que nous ne verrions pas Mladic, Karadžić et ceux qui envoyaient des bombes sur Sarajevo avant d'aller voir le président de la Bosnie, enfin Izetbegović. Et donc c'était normal d'ailleurs, la politesse même. Donc nous avons vu Izetbegović, il y a eu des... Il parlait anglais, le président parle pas anglais... Mais quand même, ils se comprenaient. Il n'y a pas eu de sympathie entre eux. Mais il y a eu une compréhension très vive de l'oppression que supportaient les Sarajeviens. Et puis, à la fin, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé, parce que on n'a pas le temps, mais ils employaient les gens de Sarajevo et les amis de Izetbegović employaient un argument très fort. Ils disaient, en Serbie, il y a des camps d'extermination.
Et ça, immédiatement, ça faisait référence à la Deuxième Guerre mondiale.
Bah oui, et puis surtout, moi, ça me parlait sérieusement. Oui, avant, même en anglais.
Bien sûr.
Et je disais au président, mais il a dit extermination. Et bref, on pensait qu'il voulait dire camp de concentration, pas extermination. Bon, on s'est aperçu, mais j'ai pas le temps de vous le raconter, que c'était un argument pour que les...
C'était excessif.
Enfin, c'était pas drôle non plus. Je les ai visités, les camps, mais... C'était pour essayer pour que les puissances occidentales, c'est-à-dire les Anglais et les Français les premiers, interviennent pour arrêter ce massacre. Bon, je continue. À la fin de la visite, il a été ému, François Mitterrand a été ému plusieurs fois, on restait ensemble, ça. Nous avions rendez-vous avec Mladic et Karadžić à l'aéroport. Je fais court. Il y avait aussi un type qui était président d'université. Bon. Et ce président d'université, serbe de palais, justement, les gens qui, au-dessus de Sarajevo, bombardaient la cuvette de Sarajevo, dit, Monsieur le Président Mitterrand, vous êtes... Ben oui, vous venez, évidemment, il y a des victimes de ce côté-là, etc. Mais vous savez, quand vous voyez une victime à Sarajevo, il y en a 10 à Palais et dans d'autres... Alors là, François Mitterrand, que je n'avais jamais vu en colère, je le connaissais pas mal, est rentré dans une très grande rage. Il a dit, vous mentez, monsieur, je ne supporterai pas ça. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est à Sarajevo qu'on souffre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des souffrances de votre côté, mais la proportion que vous dites est indigne. Vous, vous envoyez les bombes. Eux les reçoivent. Pas mal. Vrai, en tout cas. Donc, il s'est aperçu que leurs Serbes, les Serbes de l'Alliance, la vieille Alliance de revers, et d'ailleurs que je comprends très bien, que j'approuvais, étaient capables, on changeait d'époque, nous étions dans un autre monde, les petits nationalismes parcellaires allaient s'assassiner, et pourquoi tout ça? C'était même pas religieux. Il a compris ça très vite.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours en compagnie de Bernard Kouchner, qui a choisi de nous faire écouter Le Temps des Cerises, mais dans une version un peu originale, Bernard Kouchner.
Oui, j'ai pensé au Temps des Cerises, parce que d'abord, j'aime beaucoup cette chanson, elle est très symbolique, la dernière barrière de la commune, Jean-Baptiste Clément, mais surtout, c'est Barbara Hendricks, qui a chanté pour l'enterrement de François Mitterrand sur la grande place de la Bastille, a chanté Le Temps des Cerises. Je trouvais que ça allait bien avec le sujet et avec l'espoir que parfois les affrontements, les guerres, les violences, la cruauté suscitent.
Alors l'espoir, Bernard Kouchner, vous l'avez recherché très tôt dans votre existence, bien avant, et on va refaire un petit pas en arrière, en étant un des pères, un des fondateurs, un des porteurs, pourrait-on dire, de cette idée humanitaire. On est dans les années 70, on est au Biafra, vous êtes un jeune médecin, vous trouvez au Biafra, et alors là, comment pouvez-vous restituer cette naissance, cette genèse de l'idée humanitaire?
Moi, j'étais très politique, médecin, beaucoup plus politique que mes amis qui étaient dans ce premier groupe et que j'aime beaucoup. Pour aller vite, mais vraiment, c'est toute une histoire que je suis en train d'écrire.
Ah bah,
je
vous dis ça. Alors, très bien, nous aurons nos auditeurs.
Attendez, il y a encore quelques années à faire, c'est une longue histoire. Vous comprenez, tout le monde se moquait de ce... Nous avions distribué les bons et les méchants, les bons politiques et les méchants politiques dans les guerres et dans les affrontements et dans la pauvreté en réalité, parce que tout ça c'est la misère. Et donc, c'était un mauvais pays et les gens qui se battaient étaient des mauvais soldats de ce qu'on appelait le bien. Mais le mal, c'était de les tuer. Les enfants, 800 000 enfants sont morts. 800 000 enfants, pourquoi? Parce qu'il y a eu des blocus alimentaires. Or, ça, c'est interdit par les conventions de Genève, etc. Et donc, nous recevions dans nos mains ces petits êtres frêles et qui se cassaient dans nos mains. On pouvait de temps en temps inventer des traitements, etc. Je passe. Mais surtout, pour arrêter ça, il fallait arrêter la guerre. Alors, qu'est-ce que vous faites? Être humanitaire, c'est très joli, mais d'une certaine façon, je parle avec précaution, je ne pense pas ça complètement, mais on a besoin du malheur pour qu'il y ait des humanitaires. Là, il y avait un gros malheur. Et pour l'arrêter, on pouvait pas simplement mettre des pansements ou même inventer l'hyperprotéine des pour les enfants du Kwashiorkor. Il fallait arrêter la guerre. Et donc, j'ai été parjure par rapport à mes amis de la Croix-Rouge internationale. Nous avons, avec mon ami Max Récamier, signé un papier dans Le Monde pour dire « c'est effrayant, vous savez pas ce qui se passe, faut arrêter ça ». Ça, c'était le début. Et puis après, on a créé Médecins Sans Frontières.
Ça veut dire, Bernard Kouchner, que vous avez fait passer les corps et la souffrance, les personnes, l'innocence des enfants, avant les questions stratégiques,
oui, monsieur,
et avant la guerre.
Bien avant, oui monsieur, oui monsieur. Si on est, sinon, on n'est pas médecin. Mais c'est comme ça, là. Les médecins, traditionnellement, maintenant ça a un peu changé, ils attendent que le malade vienne à eux.
Est-ce que vous ne pensiez pas, est-ce que vous n'aviez pas le souvenir, Bernard Kouchner, aussi des camps, alors des vrais, de la Shoah, et que là, et dans laquelle on n'avait pas, la Croix-Rouge notamment n'avait pas parlé.
La Croix-Rouge n'avait pas parlé. Maintenant, j'ai bien sondé tout ça, vous savez. Il y a un très beau livre qui s'appelle « L'impossible mission » d'un professeur Favez, paru en Suisse. Il y avait 19 membres dans le comité de la Croix-Rouge. 17 ont dit oui, il faut parler, et deux, les deux derniers, qui étaient le président de la Croix-Rouge et le président de la Confédération helvétique, ont dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne nous laissera pas visiter les autres prisonniers. Ce qui était une saloperie. Les autres prisonniers ne risquaient pas la vie dans les camps d'extermination. Tout le monde allait mourir. Ce sont ces petites nuances qui changent tout. Oui. Nous étions parjures, et je crois que ça a bien marché, mais ça ne veut pas dire qu'il faut parler tout le temps. Il y a des gens qui ne parlent pas et qui sont les seuls à pouvoir soigner, je sais tout ça. C'est une longue histoire, mais elle était humano-politique, politico-humanitaire. C'est ça que les French Doctors ont découvert. Ce mélange impossible à nuancer précisément. C'est pas scientifique tout ça. À quel moment il faut parler, à quel moment il faut se taire. Voilà, c'est ça qui s'est passé et le Biafra nous l'a appris.
C'est ça. Alors ça veut dire qu'il y a une action. On ne dénonce pas simplement, on agit directement. C'est peut-être votre métier d'ailleurs qui vous est prédispose.
C'est vrai.
Et il y a ensuite la crise des boat people. Je dis ça parce que elle va nous rappeler des choses, la crise des boat people, Bernard Kouchner.
Et puis il y a aussi quelque chose qui vous rappelle quelque chose, mon cher Antoine Garapon, c'est le Kosovo, on en parlera.
Oui, on en parlera ensuite. D'accord. Bah oui, mais ça montre l'actualité. C'est pour ça que
l'après 89,
bien sûr.
Et
dans les boat people, on est très loin de la France. On est une guerre qui ne nous concerne plus. C'est la guerre en mer de Chine. C'est quoi? C'est la guerre au Vietnam. Et puis ensuite, la tyrannie vietnamienne.
Et justement, nous en revenons à nos premières paroles. Le communisme tue au Vietnam. C'est ça qui s'est passé. Bon, alors, comme nous étions pour l'indépendance du Vietnam, et militants dans les rues, partout, en se battant partout, bon, on leur donnait raison d'avance. Mais non, on ne pouvait pas. Les gens qui partaient du Vietnam et qui risquaient leur vie en mer, les boat people, ceux-là avaient été massacrés, mis en camp, torturés, etc., etc., par les communistes vietnamiens. Pas tous, bien sûr. Et donc, ceux qui avaient milité en faveur du Vietnam s'indignaient qu'on aille sauver ces gens-là. Bah, pas moi, pas mes amis et moi. Et nous avons envoyé 7 bateaux de la France en mer de Chine. Et on a pris 132 000... dans nos petites mains, avec ces bateaux-là. Et puis, président Chirac en a pris en tout, en plus des 132 000, 250 000. Il y a eu 400 000 des gens qui se noyaient en mer, comme ceux que nous allons décrire ici en Méditerranée. Mais non seulement là, on les a pas pris, mais nos enfants, c'était la mer Méditerranée, faisaient des châteaux de sable sur ces plages et parfois voyaient arriver ces pauvres gens.
Oui.
C'est ça. Alors voilà, les droits de l'homme ont régressé.
Parce que quand vous expliquez qu'on accueille en France 400 000, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est pas si loin que ça quand même, 400 000 personnes, qui les accueille en France ?
Alors, les accueils, c'était surtout les associations et les fondations, avec l'aide de l'État, c'est-à-dire qu'il y avait des regroupements, mais c'était les catholiques, les protestants, les juifs, tout le monde qui en prenait en charge, et le préfet, c'était pas un accueil national, il y avait une autorisation nationale, bien entendu, de les accueillir, mais c'était fournisseurs, ils étaient fournisseurs de moyens, comme on peut faire. Puis on a refait des villages entiers avec des gens qui arrivaient de loin. Ça a marché merveilleusement. Vous les rencontrez dans les rues maintenant. Ils vont très bien.
Alors ça veut dire.
Alors
que...
les autres, ils étaient musulmans. Faut pas oublier
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Alors, mais ce que je veux dire, j'insiste sur ce oui, point, oui. Que notre pays, accueille 400 000 personnes venant de très loin d'une zone qui est beaucoup moins familière, dont on est beaucoup moins proche que le Moyen-Orient, et cela ne pose pas de problème. Et ça ne fait pas une polémique nationale. Et le président Chirac, voilà, au contraire. Et aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, Bernard Kouchner.
On n'en est plus du tout là, je le regrette et je pleure. Quand j'ai vu les premiers résultats des morts en mer, de la mer Méditerranée, Mare Nostrum,
bien sûr.
J'ai pensé que, d'abord, l'Europe était foutue, l'Union européenne, parce que s'il n'y a pas cette solidarité élémentaire, alors c'est quoi l'Europe ? C'est pas simplement Erasmus. Et puis, deuxièmement, que nous assistions au triomphe du nationalisme et des défenses parcellaires et à l'effondrement des droits de l'homme.
Et au
c'est
triomphe,
triste à dire,
et
mais
au triomphe de l'égoïsme.
Égoïsme, bien sûr, personnel. Enfin, égoïsme, oui, on peut dire ça, bien sûr, on peut le dire, on doit le dire. Mais si on leur avait donné les moyens de le faire, je suis sûr que les Français auraient accepté. Y compris la droite, y compris même parfois l'extrême droite. Si vous leur donnez une famille où il y a 3 enfants, qui les regardent avec leurs grands yeux, et qui leur demandent asile pendant un an ou deux, je suis sûr que tout le monde aurait marché. Alors, mais on n'a pas permis, parce qu'il y a eu un discours qui reproduisait celui du Front National, et qui était, en gros, on acceptait l'idée qu'ils viennent nous prendre nos travaux, notre travail. Et que surtout ils étaient des envahisseurs. C'est pas vrai. Ils étaient en train de fuir, surtout les Syriens, ce que nous combattions, l'État islamique et la barbarie hyper musulmane, ouais. L'extrémisme musulman.
C'est ça. Voilà. Mais
on en a loupé une occasion historique d'être français, d'être nous-mêmes, d'être le pays des droits de l'homme. On ne l'est plus.
Vous êtes un peu dur pour nous, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont battus vers Bernard Kouchner.
Je m'en fous que d'être dur d'abord. Oui. Deuxièmement, non, mais pas pour, je dis ça, pas pour vous. Enfin, j'ai donné de ma personne pendant 40 ans pour essayer de représenter dignement ce pays. Qui est-elle, le pays des droits de l'homme ? Mais quand on a fait ça, on ne l'est plus.
C'est quand même assez impressionnant. C'est quand on voit le drame des Balkans, il a fait un peu réagir en France. Il y a eu des réactions part de la société civile. La Syrie n'a provoqué aucune indignation.
Une manif centrale contre la Syrie, 400 000 morts, sinon 500 000. Vous vous rendez compte ? C'est ça maintenant. Il n'y a plus de réaction. On a tellement peur que non seulement le monde change, mais que nous ne soyons plus ce phénix qui renaît sans cesse et qui aura l'idée. Oui, on a eu plein d'idées en France.
Vous ne croyez pas, Bernard Kouchner, que la France reste quand même, alors non plus en termes de puissance militaire ou de puissance économique, mais qu'elle reste quand même une référence dans un certain nombre
de... Une référence de gens. Il y a plein d'illusions, mais elle reste une référence. Et d'ailleurs, nous avons une armée, et une armée valeureuse. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec notre armée valeureuse ? Nous avons eu raison, François Hollande a eu raison d'envoyer nos avions pour que les extrémistes musulmans ne prennent pas Bamako. Mais quoi, où ils en sont maintenant ? N'entamons pas cette polémique. Malheureusement, nous sommes en train de reculer.
Ouvrons alors ce dernier chapitre dont je voulais parler avec vous, Bernard Kouchner, parce qu'il est très important. C'est bien sûr, vous y êtes allé, vous avez exercé un pouvoir exécutif en période de crise au Kosovo. Vous rentrez au Kosovo en 1999, en été 99. L'armée serbe vient de partir. On est quasiment dans l'état de nature. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de police, il y a très peu de structures.
Il y a encore des milices serbes.
Et il y a encore des échauffourées d'ailleurs de part et d'autre. Et donc là, vous n'êtes plus ONG, vous n'êtes plus gouvernement national. Vous devez assumer directement une responsabilité à l'égard de la population civile.
Oui, c'était passionnant d'ailleurs. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais, vous savez, on s'aperçoit combien. Enfin, c'était au nom des Nations Unies. Hein. Il y avait quand même à respecter les résolutions des Nations Unies qui étaient très imprécises, qui disaient qu'il fallait que j'établisse, que nous établissions la communauté internationale, a substantial autonomy. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Faites ce que vous pouvez, ça voulait dire. Et donc, je pensais dès les premières semaines, malheureusement, qu'on pouvait pas faire autrement que d'avoir une indépendance un jour. Parce qu'ils s'assassinaient.
Vous l'avez très tôt compris.
Il m'a fallu 3 semaines à 2 mois, oui. On ne pouvait pas faire autrement. Tous les jours, ils s'assassinaient, à l'intérieur même du Kosovo, la gauche et la droite, est-ce que ça veut rien dire, la gauche et la droite à ce moment-là. Mais enfin, Rugova et Luceka et la Ligue démocratique, les deux partis importants du Kosovo, s'assassinaient. Il fallait que toutes les nuits, j'essaye de... Voilà, souvent, ils étaient morts. Alors, j'allais, à travers tout le Kosovo, constater qu'il y avait des morts.
C'était
tragique.
C'était important, Bernard Kouchner, parce que d'être là, vous, peut-être un réflexe de l'humanitaire, dès qu'il y avait un massacre quelque part, on voyait l'hélicoptère des Nations Unies arriver, et vous essayez de recueillir des éléments, et surtout être présent vis-à-vis des populations.
Oui, de parler aux populations. Et puis ça a marché finalement, parce que Rugova et Sachi, Luceka et le LDK, ils ont fait la paix. Et ils ont fait un gouvernement. Alors, les Serbes n'en sont pas encore à reconnaître le Kosovo, on leur demande pas de le faire tout de suite, mais à terme, ce qui a été le plus malin, enfin j'aimerais bien raconter, vous savez, quand vous avez ce pouvoir-là, vous avez le vrai pouvoir. Hein. Le vrai pouvoir, c'est que de vie et de mort, mais surtout de vie, bien entendu, si on veut sauver les gens. Et puis, il y a tout à reconstruire, puis il y a une monnaie à faire, et puis il y a pas à manger, et puis, bon, tout ce qu'on veut. Mais maintenant, nous avons eu... très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait donner un ciment pour que... L'espoir pour nous, c'était l'Union européenne. Je dirais pas ça maintenant, d'ailleurs. Mais enfin, c'était quand même l'Union européenne. Et donc, pour donner un ciment entre les Serbes et les Kosovars, il fallait qu'ils aient une monnaie commune. Or, la monnaie commune, c'était l'euro qui venait. Et donc, nous avons donné une monnaie transitoire, qui était le Deutschmark, parce qu'il y avait beaucoup de Kosovars en Allemagne, et ils en avaient déjà, c'était plus facile. Et nous savions que dans quelques mois après, ils auraient bénéficié, et ils en bénéficient toujours, de l'euro.
Et, ça, et vous faites aussi un pari, Bernard Kouchner, vous faites le pari de la politique.
Oui.
C'est-à-dire que les Nations Unies, l'ONU, sont des gens très respectueux du droit, vous intervenez en fonction d'une résolution du Conseil de sécurité, très ambiguë mais néanmoins existante, et puis finalement on attend que vous soyez une sorte de proconsul des Nations Unies. Et vous prenez la décision de déclencher assez rapidement, et d'ailleurs je crois on peut le dire, contre l'avis du secrétaire général, et notamment de son directeur juridique, des élections. Faire rentrer tout de suite la population dans un processus politique.
Exact. C'était assez gonflé. Tout le monde hurlait à New York. Ils n'en pouvaient plus. Ils regrettaient d'avoir nommé ce farfadet. Bon. Mais enfin, maintenant, évidemment, ils sont contents de cette politique. C'est quand même un des rares succès des Nations Unies. Hein. C'est pas fini. Mais la politique, vous avez raison. J'étais politique. Ça veut rien dire, la neutralité. Vous pouvez essayer d'empêcher les gens de se battre. Vous l'avez sûrement fait chacun dans la rue. Ça marche jamais. Mais enfin, ils recommencent. Enfin, il faut le faire quand même. Il faut le faire absolument. Et là, la politique était aux premières loges. Tout était politique. Tout était politique. Toute l'histoire, l'invasion musulmane, les 5 siècles de Turcs, l'arrêt devant Vienne.
Une mémoire historique extraordinairement profonde.
Oui, historique incroyable. Quand vous promenez ailleurs, je me promène jamais beaucoup, mais vous pensez à quel point vous vous rendez compte, vous touchez du doigt, vous avez dans les mains l'histoire de l'Europe, tellement riche, tellement douloureuse, tellement faite de guerre perpétuelle. Tout le monde s'est battu contre tout le monde en Europe. Tout ça, c'est politique, vous comprenez. C'est pas seulement économique, ça l'est pour une part. Mais moi, je n'ai vu dans... Je dis pas que dans les religions, je n'ai vu que ça, non. Mais je veux dire, il y a toujours une base religieuse au grand conflit. Là aussi, alors comment pouvait-on surmonter cela? En ayant une réflexion internationale, ça tombe bien, c'était les Nations Unies qui étaient en cause, les Nations Unies, et on s'aperçoit alors à ce moment-là que finalement la Russie, qui était pourtant plus communiste, et les États-Unis, les puissances occidentales, n'étaient pas d'accord, et qu'on réveillait, c'est vrai, nous avons réveillé en faisant ce que nous avons fait au Kosovo, ce qu'on appelait les conflits gelés, qui se sont réveillés et qui contenaient chacun un nationalisme situé d'un côté ou de l'autre de cet ancien rideau de fer.
Et pourtant, votre coup de dé politique, de faire tout de suite des élections, au moment où tout le monde dit « Ah non, non, ça va renforcer les extrêmes », en réalité, sortent des urnes des pouvoirs plutôt modérés.
Formidable. C'était formidable, je m'en souviendrai toute ma vie, mais j'en ai fait d'autres aussi, j'en ai fait au Soudan du Sud, j'en ai fait en Afrique du Sud, etc., et Érythrée. Les gens qu'on n'a jamais consultés, qui n'ont pas eu voix au chapitre de leur propre vie, parce que c'est la politique qui donne de la voix, ces fils qui, à partir de 6 heures du matin, alors que ça n'ouvrait qu'à 8 heures, étaient là, ces vieilles femmes avec leurs fichiers, tenant leurs enfants par la main, venaient voter. On les consultait pour la première fois. Ça a été un succès gigantesque. Ça n'a pas été suffisant, bien entendu, mais quand même, ça, dans les municipalités, il s'agissait d'élections, les premières élections étaient des élections municipales. C'était formidable de les voir. Moi, ça nous faisait pleurer de joie, vous voyez. C'était pas contenu dans la résolution, machin, malheureusement. Mais, à force, puis d'abord, c'était Kofi Annan, alors c'était quand même plus facile. Car l'homme était quand même...
C'était un homme d'épaisseur. Alors,
oui, mais il a fallu le convaincre. Hein.
Bernard Kouchner, faites-nous pleurer d'espoir, à défaut de pleurer de joie. Notre monde, aujourd'hui, 30 ans après 1989.
Je pousse un grand soupir, je ne vais pas vous faire le tableau contraire, mais enfin, je pense que les gens ne sont plus sensibles. Ils sont tellement sensibles à l'inconnu de leur avenir, qu'ils pensent que... Devenir égoïste les servira. Les grands mouvements collectifs n'existent plus. Les guerres ne font plus pleurer, si je peux me permettre ces expressions un peu ridicules. Je ne vois pas. Il faudrait vraiment espérer qu'on reprenne le chemin d'une Europe-Union. D'une union quelconque, de quelque chose qui pourrait permettre à ces 550 millions d'Européens les plus riches du monde... Les plus riches du monde, arrêtons de pleurer, interdire ce qui se prépare, c'est-à-dire le choc de la Chine contre les États-Unis. Alors, il y a cette tentative qu'a fait le président Macron avec Poutine. Je pense qu'il a raison, c'est pas facile à dire, mais je pense qu'il a raison. Il faut l'arrimer à l'Europe. Et puis, continuer à avoir... Un dialogue très particulier avec l'Afrique, sûrement, mais enfin avec le tiers-monde, avec les pays en développement. Il faut continuer tout ce qu'on a rêvé.
C'est une formidable conclusion, Bernard Kouchner. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Matière à penser, Bernard Kouchner, Bernard Laniel, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous avec Giuliano da Empoli pour nous pencher sur le laboratoire italien. À demain.